Toi et ta maison, ou le chrétien chez lui, par C.H. McIntosh, 6e édition, 2e enregistrement. Après la maison proprement dite, ce que je vois inclus dans l'expression « toi et ta maison », c'est le gouvernement de nos enfants. Ah, là est une plaie des plus grandes et des plus profondément humiliantes pour plusieurs, parce qu'elle révèle une bien triste chute. L'état des enfants tend, plus que toute autre chose, à manifester l'état moral des parents. La mesure réelle de mon renoncement à moi-même et au monde se montrera constamment dans la manière dont j'agis envers mes enfants et dont je les dirige. Je fais profession d'avoir renoncé au monde, quant à moi personnellement, mais y ai-je renoncé aussi pour mes enfants? Quelques-uns s'écrient, « Mais comment le pourrais-je? Mes enfants ne sont pas convertis, et par conséquent ils sont du monde. » Ici encore, le véritable état moral du cœur de celui qui parle ainsi se révèle. Il n'a pas lui-même réellement renoncé au monde, et ses enfants lui servent de prétexte pour en ressaisir quelque chose. Si ses enfants sont une partie de lui-même, comme ils le sont assurément, et s'il fait profession d'avoir laissé le monde pour lui-même, tout en le cherchant pour eux, qu'est-ce que cela sinon l'étrange anomalie d'un homme qui serait à moitié en Égypte et à moitié en Canaan? Le désir seul qu'il en pût être ainsi démontrerait que cet homme est, de fait et de cœur, entièrement en Égypte. Maintenant, frères, jugeons-nous nous-mêmes. La direction de nos enfants témoigne contre nous. Les maîtres de danse que nous leur donnons ne sont sûrement pas les agents que le Saint-Esprit choisirait pour les amener à Christ, et ils ne se concilient nullement avec le Saint Nazaréat auquel nous sommes appelés. Si je les élève pour le monde plutôt que pour le témoignage de Christ, cela prouve que celui-ci n'est pas la part que mon âme a choisie comme pleinement suffisante pour moi, et qu'elle apprécie plus que toute autre. Car enfin, ce que j'estimerai suffisant pour moi, je l'estimerai suffisant pour mes enfants qui sont un avec moi. Et pourrais-je être assez insensé que de les élever pour ce monde et pour Satan qui en est le prince? Servirais-je et développerais-je en eux les affections de la chair que je professe mortifier en moi? Ah, ce serait là une erreur de jugement bien dangereuse. Non, si je laisse mes enfants en Égypte, c'est que j'y suis encore moi-même. Si je les laisse jouir de Babylone, c'est que j'en aime encore moi-même les fausses douceurs. Si mes enfants appartiennent de fait à un système religieux corrompu, mondanisé, c'est qu'en principe j'y appartiens moi-même. Toi et ta maison êtes un. Dieu en a fait un tout qu'on ne peut diviser, et ce qu'il a uni, que l'homme ne le sépare point. C'est là une vérité solennelle et pénétrante, à la lumière de laquelle nous pouvons clairement voir le mal qu'il y a à faire ou à laisser suivre à nos enfants une voie à laquelle nous disons avoir pour toujours tourné le dos, comme croyant fermement qu'elle aboutit à l'enfer. Nous faisons profession d'estimer comme du fumier et comme étant nuisibles les honneurs, les richesses, les distinctions, les plaisirs du monde. Cependant, toutes ces choses mêmes que nous avons déclarées n'être que des obstacles à notre course chrétienne, et que nous avons soi-disant rejetées pour nous-mêmes, nous les recommandons à nos enfants comme essentielles à leur progrès. En agissant ainsi, nous oublions entièrement que ce qui est obstacle pour nous ne peut absolument pas être aide pour nos enfants si nous voulons qu'ils atteignent le même but que nous. Il serait plus sincère de lever le masque de notre propre mondanité et d'avouer franchement que nous n'avons nullement abandonné le monde, quand rien ne le prouve mieux que nos enfants. Par l'état de nos familles, le juste jugement du Seigneur montre, je crois, Quel est le réel état du témoignage parmi nous? Il est bien connu que, dans un trop grand nombre de cas, les enfants de chrétiens sont les plus indisciplinés des alentours. Devrait-il en être ainsi? Dieu pourrait-il avoir pour agréable le témoignage des parents de tels enfants? Ces enfants seraient-ils tels si les parents avaient marché fidèlement devant Dieu quant à leur maison? À toutes ces questions, on devra nécessairement répondre non. Ah, si seulement les pères chrétiens avaient fermement retenu dans leur conscience ce principe « Toi et ta maison », ils auraient compris qu'ils pouvaient compter sur Dieu et crier à lui, autant pour le témoignage de leur maison que pour le leur propre, qui, en réalité, ne peuvent être séparés, quoi qu'on fasse et qu'on dise. Cela ne fait-il pas mal d'entendre dire « Un tel est un bon frère, très pieux, très dévoué. C'est dommage que ses enfants soient si effrontés et si indisciplinés, et que sa maison présente un si triste mélange de désordre et de confusion. Je demande de quelle valeur est le témoignage d'un tel homme devant Dieu. Hélas, il n'en a guère en vérité. Il peut être sauvé. Mais le salut est-il tout ce que nous avons à désirer? N'y a-t-il point de témoignage à rendre? Et s'il y en a un, quel est-il et où doit-il être rendu? Doit-il être confiné au banc d'une salle de réunion ou doit-il être vu aussi dans notre maison? Que le cœur réponde. On dira peut-être, nos enfants ont besoin de quelques jouissances du monde et nous ne pouvons les leur refuser. On ne peut mettre de vieilles têtes sur de jeunes épaules. À cela, je répondrai que nos cœurs aussi demandent souvent des choses mondaines. Les leurs accorderons-nous? Non, je l'espère. Eh bien, refusons-les aussi à nos enfants. Si je vois mes enfants soupirer après le monde, je dois immédiatement me juger et m'humilier devant Dieu, et crier à lui de leur ôter ces pensées mondaines, en sorte que le témoignage n'ait pas à en souffrir. Il m'est impossible de ne pas croire que, si le cœur des parents est, du centre à la circonférence, purifié du monde, de ses principes et de ses convoitises, cela exercera sur toute leur maison une puissante influence. C'est ce qui rend cette question si importante et si pratique. Ma maison est-elle un critère exact de ce qu'est mon état moral réel? Je crois que l'enseignement des Écritures est en faveur de l'affirmative, ce qui rend notre sujet particulièrement solennel. Comment est-ce que je marche comme chef de famille? Est-il évident à tous, par ma conduite, que mon suprême et unique objet est Christ? Et que je ne suis pas plus disposé à élever mes enfants pour le monde, ou à désirer le monde pour eux, qu'à ouvrir devant eux les portes de l'enfer. Je parais peut-être pousser trop loin la recherche des causes d'un mal si fréquent de nos jours. Mais, quant à moi, je pense que c'est notre devoir de poursuivre cette enquête jusqu'à ses dernières limites. D'où viennent, dans beaucoup de cas, cette terrible profanation, ce dégoût pour les Écritures et pour les assemblées chrétiennes, cette disposition à ridiculiser les choses saintes, et cet esprit infidèle et sceptique, si déplorablement manifeste chez les enfants de chrétiens de profession? Quelqu'un osera-t-il dire que ce n'est pas la faute des parents? Ne peut-on pas, au contraire, les attribuer en grande partie au triste contraste qui existe entre les principes professés et la conduite suivie par les parents? Oui, je le crois. Les enfants sont de perspicaces observateurs et ils découvrent bientôt ce que sont réellement leurs parents. Ils tirent leurs conclusions, non pas tant des prières et des paroles de leurs parents, mais d'une manière beaucoup plus expéditive et plus exacte, des actes de ceux-ci dont ils discernent bien vite les principes et les motifs. C'est pourquoi, lors même que les parents leur enseignent que le monde et les voies du monde sont mauvais, et qu'ils prient pour que tous les membres de leur famille connaissent et servent le Seigneur. Cependant, si on les élève pour le monde en cherchant soigneusement à les y bien établir, et en se félicitant lorsqu'on réussit à le faire, les autres enseignements et toutes les prières sont inefficaces. Ah, penseront-ils, le monde est une bonne place après tout, car nos parents rendent grâces à Dieu de nos succès dans ce monde, qu'ils regardent comme une faveur signalée de la Providence. Tout ce qu'ils disent, donc, quand ils prétendent être morts et ressuscités avec Christ, quand ils déclarent que le monde est jugé et qu'ils y sont étrangers et voyageurs, tout cela doit être regardé comme un non-sens, ou bien les soi-disant chrétiens doivent être regardés comme des trompeurs. Qui peut douter que de telles pensées n'aient souvent eu l'occasion de monter dans le cœur d'enfants de bien des parents professants? La grâce de Dieu, sans doute, est souveraine et peut triompher de toutes nos inconséquences et de toutes nos infidélités. Mais pensons au témoignage et veillons à ce que nos maisons soient réellement administrées pour Dieu et non pour Satan. Peut-être demandera-t-on, que feront donc nos enfants? Comment s'en tireront-ils? Ne faut-il pas les mettre en état de gagner leur pain? Sans doute. Dieu nous a destinés au travail. Le fait même qu'il nous a donné deux mains prouve que nous ne devons pas être des paresseux. Mais je ne vois pas la nécessité, dans le but de donner à mon fils un moyen de travailler, de le pousser dans un monde dont je me suis séparé. Le Dieu Très-Haut, le possesseur des cieux et de la terre, avait un fils, son fils unique, l'héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Et quand il envoya ce fils dans le monde, il ne lui donna pas une profession savante, mais il était connu comme le charpentier. Cela ne nous dit-il rien? Ne nous enseigne-t-il rien? Maintenant, Christ est monté en haut et a pris sa place à la droite de Dieu. Ainsi ressuscité, il est notre chef, notre représentant et notre modèle. Mais il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Les suivons-nous en cherchant à faire briller nos enfants dans un monde qui a crucifié Jésus? Ah, certainement non. Nous faisons plutôt le contraire, et le résultat ne tardera pas à se montrer, car il est écrit « Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. » Galates 6, verset 7. Si relativement à nos enfants nous semons pour la chair et pour le monde, nous pouvons savoir ce que nous moissonnerons. Ce n'est pas seulement à l'égard de l'objet de l'éducation de nos enfants que nous avons manqué et gâté le témoignage, mais nous avons péché aussi en ne les tenant pas, en général, dans la soumission à l'autorité paternelle. À cet endroit, il y a eu de grands manquements chez les parents chrétiens. L'esprit du siècle présent est un esprit d'indépendance et d'insubordination. Désobéissance à leurs parents, c'est là un des traits de l'apostasie des derniers jours, de Timothée 3, verset 2, et nous avons personnellement aidé à son développement par une application complètement fausse du principe de la grâce, comme aussi en ne voyant pas que la relation de père et de mère comprend un principe d'autorité exercée en justice, sans lequel nos maisons présenteront le triste aspect de la confusion, du désordre et de l'indiscipline. De Timothée 3, verset 2. Car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle. Ce n'est pas de la grâce que de choyer une volonté non sanctifiée. Nous nous affligeons de n'avoir pas une volonté brisée et soumise, et en même temps nous travaillons à fortifier la volonté propre de nos enfants. C'est toujours, à mes yeux, une preuve de faiblesse dans l'exercice de l'autorité paternelle, ainsi que l'ignorance de la manière dont le serviteur de Dieu doit gouverner sa maison que d'entendre un père ou une mère dire à son enfant « Veux-tu ceci ou cela ? Veux-tu faire telle chose ou telle autre ?» Cette question, toute simple qu'elle paraisse, tend directement à créer ou à servir la chose même qu'il vous faut travailler à soumettre par tous les moyens en votre pouvoir, c'est-à-dire l'exercice de la volonté propre dans l'enfant. Ainsi, au lieu de dire à votre enfant « Veux-tu faire ceci ?», dites-lui d'abord ce qu'il doit faire et ne lui permettez jamais de mettre en question votre autorité. La volonté d'un père doit être considérée comme suprême par son enfant, car le père tient pour lui la place de Dieu. Tout pouvoir est à Dieu, et il en a donné à son serviteur, soit comme père, soit comme maître. Si donc l'enfant ou le serviteur résiste à ce pouvoir, il résiste à Dieu. L'exhortation adressée au père subsiste néanmoins. Et vous, père, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Il y a un grand danger à irriter nos enfants ou à provoquer leur colère par une excessive rigueur et des traitements arbitraires. Nous sommes constamment portés à former et à modeler nos enfants selon nos propres goûts et nos vues particulières, plutôt qu'à les élever dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur, c'est-à-dire selon la manière dont le Seigneur corrige et enseigne ses enfants. C'est là une grave erreur qui ne peut produire que confusion et mécompte. Nous n'avons rien à gagner, relativement au témoignage pour Christ, en moulant et façonnant la nature sous les formes les plus recherchées. En outre, la culture et l'instruction de la nature n'exigent point de foi, mais il faut de la foi pour élever des enfants dans la discipline et dans l'enseignement du Seigneur. On dira peut-être que, dans ce passage, l'apôtre parle d'enfants convertis. À cela, je réponds qu'il n'y est rien dit de la conversion. Il n'est pas écrit « Élevez vos enfants convertis », etc. Sinon, la question serait résolue. Mais il est simplement dit « vos enfants », ce qui, à coup sûr, veut dire « tous vos enfants ». Or, si je dois élever tous mes enfants dans la discipline et l'enseignement du Seigneur, quand dois-je commencer à le faire? Faut-il que j'attende qu'ils soient presque devenus des hommes ou des femmes, ou faut-il que je commence, comme tous les gens raisonnables commencent leur ouvrage, c'est-à-dire au commencement? Leur permettrai-je de se livrer à leur folie naturelle pendant la période la plus importante de leur carrière, sans jamais essayer de placer leur conscience en présence de Dieu quant à leur solennelle responsabilité? Les laisserai-je gaspiller, dans une totale insouciance, ce temps de leur vie pendant lequel se produisent les éléments de leur futur caractère? Ce serait là le comble de la cruauté. Que diriez-vous d'un jardinier qui laisserait les branches de ses arbres fruitiers prendre toutes sortes de formes tordues et bizarres avant d'avoir l'idée de commencer à user de moyens propres à les redresser? Vous diriez qu'il est insensé. Eh bien, il serait sage en comparaison de parents qui ajournent la correction et l'enseignement du Seigneur aux temps où leurs enfants auront fait des progrès manifestes dans la discipline et l'enseignement de l'ennemi. Mais, dira-t-on peut-être, nous devons attendre des preuves de conversion. Je réponds que la foi n'attend jamais des preuves, mais qu'elle agit d'après la parole de Dieu, et que les preuves suivent infailliblement. C'est toujours une incrédulité manifeste que d'attendre des signes quand Dieu a donné un commandement. Si les enfants d'Israël eussent attendu un signe quand Dieu disait « qu'il marche », c'eût été une évidente désobéissance. Si l'homme à la main sèche eût attendu que quelque force se manifestât en lui, quand Jésus lui commanda d'étendre le bras, il aurait porté sa main sèche au tombeau. Il en est de même des parents. S'ils attendent des signes et des preuves avant d'obéir à la parole de Dieu, en Éphésiens 6, verset 4, il est certain qu'il ne marche pas par la foi, mais par la vue. Éphésiens 6, verset 4.
Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur.
De plus, si nous devons commencer dès le commencement à élever nos enfants, il en résulte que nous devons commencer avant qu'ils soient capables d'offrir aucune preuve de conversion. En ceci, comme en tout, notre affaire est d'obéir et de laisser à Dieu les résultats. L'état moral de l'âme peut être mis à l'épreuve par le commandement, mais quand il y a la disposition d'obéir, la puissance pour le faire accompagnera, sans aucun doute, le commandement, et les fruits de l'obéissance s'en suivront, au temps propre si nous ne défaillons pas. Quant au serviteur, il est ajouté
que tous les esclaves qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés.
Notez qu'il est dit
« Dieu et la doctrine ».
Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une question de puissance. Le nom de Christ et la doctrine mettraient le maître et le serviteur sur un même niveau, comme membres du même corps. En Christ Jésus, il n'y a point de différence. Mais quand je sors de là dans les relations d'ici-bas, je rencontre le gouvernement de Dieu qui fait l'un maître et l'autre serviteur, et toute infraction à l'ordre établi par ce gouvernement attire un jugement infaillible. Il est d'une immense importance d'avoir une intelligence nette de la doctrine du gouvernement moral de Dieu. C'est le moyen de lever bien des difficultés et de résoudre bien des questions. Ce gouvernement s'exerce avec une décision et une justice particulièrement solennelles. En cherchant dans l'Écriture ce qui est relatif à ce sujet, nous trouverons que, dans chaque cas où il y a eu erreur ou péché, ce mal a produit inévitablement ses fruits. Adam désobéit et fut, à l'instant, rejeté du jardin dans un monde gémissant sous le poids de la malédiction causée par son péché. Il ne fut plus jamais replacé dans le paradis. La grâce intervint, il est vrai, et lui fit la promesse d'un libérateur. Elle couvrit encore sa nudité. Néanmoins, son péché produisit son résultat, et Adam ne recouvra jamais ce qu'il avait perdu par sa faute. Moïse, aux eaux de Mériba, parla légèrement de ses lèvres, et la conséquence en fut que Dieu, qui est juste, lui défendit l'entrée de Canaan. Dans ce cas encore, la grâce vint apporter quelque chose de meilleur que ce qui avait été perdu, car il était beaucoup meilleur de contempler, du sommet du Pisga, les plaines de la Palestine dans la compagnie de l'Éternel, que de les habiter avec Israël. Deutéronome 34, versets 1 à 5.
Et Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, le sommet du Pisga, qui est vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, et tout Nephtali, et le pays d'Éphraïm et de Manassé, et tout le pays de Juda jusqu'à la mer d'Occident, et le Midi, et la plaine du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Et l'Éternel lui dit, « C'est ici le pays au sujet duquel j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, disant, « Je le donnerai à ta semence. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. » Et Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon la parole de l'Éternel.
Dans le cas de David, nous trouvons aussi le mal suivi de sa conséquence. David commet un adultère. Et cette sentence solennelle fut aussitôt prononcée,
« L'épée ne s'éloignera pas de ta maison à jamais. »
Ici encore, la grâce abonda, et David en jouit avec un sentiment plus profond lorsqu'il s'avançait par la montée des oliviers avec les pieds nus et la tête couverte, qu'il n'en avait joui au milieu des splendeurs du trône. Néanmoins, son péché produit ses résultats. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament que nous voyons le péché porter son fruit. Dans le Nouveau, nous voyons Barnabas, acte 15, versets 37 à 41, exprimer le désir, bien convenable en apparence, de conserver la société de son cousin Marc. Acte 15, versets 37 à 41.
Et Barnabas se proposait de prendre avec eux Jean aussi appelé Marc. Mais Paul trouvait bon de ne pas prendre avec eux un homme qui les avait abandonnés dès la Pamphylie et qui n'était pas allé à l'œuvre avec eux. Il y eut donc entre eux de l'irritation, en sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre et que Barnabas, prenant Marc, fit voile pour Chypre. Mais Paul, ayant fait choix pour lui de Silas, partit après avoir été recommandé à la grâce du Seigneur par les frères, et il parcourait la Syrie et la Cilicie, fortifiant les assemblées.
Dès ce moment, Barnabas perd la place honorable qu'il avait dans les récits du Saint-Esprit, qui ne fait plus aucune mention de lui. Sa place fut dès lors occupée par un cœur plus entièrement dévoué, plus libre d'affection purement naturelle que celui de Barnabas. C'était la nature, en Barnabas, qui le portait à désirer la compagnie de celui qui s'était séparé de Paul et de lui dès la Pamphylie, et n'était point allé avec eux pour cette œuvre. C'était une nature aimable, mais c'était la nature, et elle triompha en Barnabas, puisqu'il prit Marc avec lui, et qu'ils firent voile ensemble pour l'île de Chypre, terre natale de Barnabas, où, dans le temps du premier amour, il avait vendu sa propriété, afin de pouvoir suivre plus librement celui qui n'avait pas eu un lieu où reposer sa tête. Acte 4, versets 36 et 37.
Et Joseph, qui par les apôtres fut surnommé Barnabas, ce qui, étant interprété fils de consolation, lévite et cypriote de naissance, ayant une terre, la vendit, et en apporta la valeur et la mit aux pieds des apôtres.
Hélas, il n'est pas rare que le cœur naturel retourne à ce qu'il a laissé. Les fleurs de l'arbre de la profession chrétienne sont, au printemps, belles et abondantes et répandent un doux parfum. Mais combien peu, souvent, on trouve de fruits savoureux en automne. Les influences de la nature et du monde soufflent pour dépouiller l'âme qui promet des fruits, et, au lieu de ceci, il n'y a souvent que stérilité et mécompte. C'est là quelque chose de très triste et du plus fâcheux effet moral sur le témoignage. Le salut de la personne qui a donné ainsi des espérances, déçue plus tard, n'est pas du tout en question. Barnabas était sauvé, sans doute. L'influence qu'eurent sur lui Marc et l'amour de sa patrie ne put effacer son nom du livre de vie de l'agneau, mais elle effaça son nom du registre du témoignage et du service ici-bas. Et n'était-ce pas là quelque chose de lamentable? N'avons-nous rien à craindre ou à déplorer, si ce n'est la perte du salut personnel? Ah, ce serait nous montrer bien égoïstes et bien indifférents à la gloire de Dieu. Dans quel but ce Dieu béni prend-il tant de peine à conserver son Église ici-bas? Est-ce pour que les croyants soient sauvés et préparés pour la gloire? Nullement. Ils sont déjà sauvés par la parfaite rédemption du Christ et, par conséquent, préparés pour la gloire. Il y a une inséparable connexion entre la justification et la gloire.
Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Pourquoi donc Dieu nous laisse-t-il ici-bas? C'est pour que nous soyons un témoignage pour Christ. Sans cela, nous pourrions tout aussi bien être enlevés au ciel aussitôt après notre conversion. Qu'il nous soit donné de comprendre cette vérité dans toute sa plénitude et sa force pratique. Le gouvernement moral de Dieu est une vérité de toute importance. Il est tel que celui qui fait le mal en moissonnera infailliblement le fruit, qu'il soit croyant ou incrédule, saint ou pécheur, n'importe. La grâce de Dieu peut pardonner aux pécheurs, et elle pardonne toutes les fois que le péché est jugé et confessé. Mais comme le péché est une atteinte portée au principe du gouvernement moral de Dieu, il faut que celui qui l'a commis soit amené à sentir sa faute. Il a manqué, et il doit nécessairement en éprouver les conséquences. C'est là une vérité bien solennelle, mais tout particulièrement salutaire, dont l'action a été misérablement entravée par de fausses notions sur la grâce. Jamais Dieu ne permet à sa grâce d'affaiblir son gouvernement moral. Ce serait une confusion, et Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Nous avons oublié que Dieu nous a donné un exemple en exerçant un juste gouvernement. Les épîtres de Pierre développent la doctrine du gouvernement moral de Dieu. C'est là que nous trouvons cette question.
Qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes devenus les imitateurs de celui ou de ceux qui est bon?
Quelques personnes trouvent difficile de concilier cette question avec la déclaration de Paul.
Tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés.
Il semble superflu de dire que les deux idées sont en parfaite harmonie. Le Seigneur lui-même, qui fut le seul imitateur parfait et constant de ce qui était bon, lui qui, d'un bout à l'autre de sa carrière ici-bas,
alla de lieu en lieu faisant du bien,
trouva à la fin la croix, la lance et le sépulcre. L'apôtre Paul qui, plus que tout autre homme, marcha sur les traces du grand modèle qui était constamment devant lui, fut appelé à boire une coupe extraordinaire de privations et de persécutions. Et de nos jours, plus un saint sera semblable et dévoué à Christ, plus il aura à endurer de persécutions et de privations. Si, poussé par un pur dévouement à Christ et par amour pour les âmes, il allait s'établir ouvertement dans certaines contrées catholiques romaines pour y prêcher Christ, sa vie pourrait y être en danger. Tous ces faits sont-ils en opposition avec la question de Pierre? Nullement. La tendance directe du gouvernement moral de Dieu est de garantir du mal tous ceux qui sont imitateurs de ce qui est bon et d'infliger des châtiments à tous ceux qui font le contraire. Mais elle n'a rien à faire avec la voie plus élevée de la position de disciple. Elle ne prive qui que ce soit du privilège et de l'honneur d'être aussi semblable à Christ qu'il le désire.
Parce qu'à vous, il a été gratuitement donné, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, ayant à soutenir le même combat que vous avez vu en moi et que vous apprenez être maintenant en moi.
Philippiens 1, versets 29 et 30. Ici, nous apprenons que c'est une grâce qui nous est conférée d'être appelés à souffrir pour Christ, et cela au milieu d'une scène dans laquelle, sur le terrain du gouvernement moral de Dieu, il peut être dit
« Qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes devenus les imitateurs de ce qui est bon ?»
Reconnaître le gouvernement de Dieu et s'y soumettre est une chose. Être imitateur d'un Christ rejeté et crucifié est une toute autre chose. Même dans cette épître de Pierre qui, comme nous l'avons fait remarquer, a pour sujet spécial la doctrine du gouvernement de Dieu, nous lisons.
Mais si, en faisant le bien, vous souffrez et que vous l'enduriez, cela est digne de louange devant Dieu, car c'est à cela que vous avez été appelés. Car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces.
Et encore,
si quelqu'un souffre comme chrétien,
ou parce qu'il est moralement semblable à Christ,
qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom.
Il ne faut pas, cependant, confondre le principe du gouvernement de Dieu avec son caractère. Le premier est justice, le second est grâce. Ce que je cherche à faire ressortir maintenant, c'est le fait que la relation de père et de maître implique un principe de justice, et que si ce principe n'a pas une application convenable dans le gouvernement de la famille, il doit y avoir confusion. Si je vois un enfant qui m'est étranger agir mal, je ne suis revêtu d'aucune autorité divine pour exercer une juste discipline à son égard. Mais dès que je vois mon propre enfant qui fait le mal, je dois le discipliner parce que je suis son père. Mais, dira-t-on peut-être, la relation de père à fils est une relation d'amour. C'est vrai, car il est écrit
« Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. »
1 Jean 3, verset 1. Mais quoique cette relation soit fondée sur l'amour, elle est exercée en justice, car il est aussi écrit
« Car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu. »
1 Pierre 4, verset 17. De même, Hébreux 12 nous enseigne que notre qualité de fils légitime nous place sous la juste discipline du Père des Esprits. Et dans Jean 17, l'Église est remise aux soins du Père Saint pour qu'il la garde en son nom. Or, toutes les fois que les parents chrétiens perdent de vue cette grande vérité, leurs maisons sont livrées au désordre. Ils ne gouvernent pas leurs enfants. Il en résulte que, avec le temps, ce sont leurs enfants qui les gouvernent. Car enfin, il faut que le gouvernement soit quelque part. Et si ceux à qui Dieu a confié les rênes ne les tiennent pas comme ils le doivent, elles tomberont bientôt en de mauvaises mains. Quelle chose triste et honteuse que de voir des parents gouvernés par leurs enfants. Je ne doute pas qu'aux yeux de Dieu ce ne soit une tâche, un désordre qui attire tôt ou tard son jugement. Un père qui laisse tomber de ses mains les rênes du gouvernement, ou qui ne les tient pas fermement, manque gravement à sa sainte responsabilité d'être, pour sa famille, le représentant de Dieu et le dépositaire de sa puissance. Je ne pense pas qu'un tel homme puisse jamais reprendre complètement sa position, ni être, dans sa génération, un fidèle témoin de Dieu. Il peut être l'objet de la grâce, ce qui est tout autre chose qu'un témoin pour Dieu. Voilà ce qui peut expliquer le lamentable état de beaucoup de frères. Ils ont totalement manqué à leur devoir de gouverner leur maison selon le Seigneur, ce qui leur a fait perdre leur vraie position et leur influence morale. De là vient que leur énergie est paralysée, que leurs bouches sont fermées, leurs témoignages annulés. Et si quelqu'un d'eux vient à faire entendre une faible voix, le doigt du mépris, désignant aussitôt l'état de sa famille, amène la rougeur à ses joues et le remords à sa conscience. Tous ne se font pas des idées justes de ce sujet et ne savent pas toujours remonter à cette source d'un grave état de déchéance morale. Beaucoup de chrétiens prennent facilement leur parti de voir leurs enfants croître dans la désobéissance et la mondanité. Il leur semble que c'est là une chose naturelle et inévitable, et on les entend dire à d'autres « Pendant que vos enfants sont jeunes, vous en faites ce que vous voulez, mais attendez qu'ils soient plus âgés et vous verrez bien que vous serez obligés de les laisser aller dans le monde. » Jamais je ne pourrai croire que ce soit selon la pensée de Dieu que les enfants de ses serviteurs grandissent nécessairement dans la mondanité et l'insubordination. Eh bien, si ce n'est pas sa pensée qu'il en soit ainsi, si, dans sa miséricorde, il a ouvert aux enfants de ses saints les mêmes sentiers qu'à ces derniers, s'il autorise les parents chrétiens à choisir pour leur famille la même part que, par sa grâce, ils ont choisi pour eux-mêmes, si, après tout cela, leurs enfants sont volontaires et mondains, que faut-il souvent en conclure, sinon que les parents ont péché dans l'exercice de leur relation et de leur responsabilité? Mais doivent-ils faire un principe général de ce qui est souvent le résultat de leur infidélité, et prononcer que tous les enfants des chrétiens doivent ressembler aux leurs en grandissant? Font-ils bien de détourner de jeunes parents de choisir le terrain de Dieu relativement à leurs enfants en leur proposant leurs errements, au lieu de les encourager en plaçant devant eux l'infaillible fidélité de Dieu envers tous ceux qui le cherchent dans la voie de ses commandements? Agir ainsi serait imiter le vieux prophète de Bethel qui, parce qu'il était lui-même dans le mal, cherchait à y entraîner son frère et contribua à le faire tuer par un lion pour sa désobéissance à la parole de l'Éternel. En résumé, la propre volonté de mes enfants manifeste souvent la propre volonté de mon propre cœur, et un Dieu juste se sert d'eux pour me châtier, parce que je ne me suis pas jugé moi-même. Pour m'épargner de la peine, j'ai laissé le mal avoir son cours dans ma famille, et maintenant mes enfants ont grandi autour de moi et sont comme des épines à mes côtés, parce que je ne les ai pas élevés pour Dieu. Telle est l'histoire de milliers de familles. Nous ne devrions jamais perdre de vue que nos enfants doivent, aussi bien que nous-mêmes, servir à la défense et à la confirmation de l'Évangile. Je suis convaincu que, si nous pouvions être amenés à considérer nos maisons comme devant être un témoignage pour Dieu, cela produirait une immense réforme dans notre manière de les gouverner. Nous chercherions alors à y établir un ordre moral plus élevé, non pas afin de nous épargner de la peine ou du chagrin, mais plutôt afin que le témoignage n'ait pas à souffrir du désordre de nos maisons. Mais n'oublions pas que, pour pouvoir dompter la nature en nos enfants, il faut premièrement la dompter en nous-mêmes. Nous ne pouvons jamais vaincre la chair par la chair, et ce n'est qu'autant que nous l'avons surmontée en nous que nous sommes en état de la surmonter en nos enfants. De plus, il faut, pour cela, une parfaite intelligence et une complète harmonie entre le père et la mère, leur voix, leur volonté, leur autorité, leur influence doivent être une, dans le sens le plus strict de ce mot. Étant eux-mêmes une seule chair, ils devraient toujours présenter à leurs enfants la beauté et la puissance de cette unité. Dans ce but, ils doivent servir Dieu ensemble, s'attendre à lui, se tenir beaucoup en sa présence, lui ouvrir tout leur cœur, lui exposer tous leurs besoins. Les maris et les femmes manquent fréquemment à ce qu'ils se doivent à cet égard. Il arrive parfois que l'un des deux désire réellement renoncer au monde et dompter la chair à un degré auquel l'autre n'est pas arrivé, et cela produit de tristes résultats. Cela conduit souvent à de la réserve, à des détours, à un antagonisme positif dans les vues et les principes du mari et de la femme, en sorte qu'on ne peut dire d'eux qu'ils sont unis dans le Seigneur. L'effet de tout cela sur les enfants qui grandissent est pernicieux, et son influence funeste sur toute la maison est incalculable. Ce que le père commande, la mère le conteste. Ce que l'un défend, l'autre le permet. Ce que le père édifie, la mère le détruit. Le père est représenté comme rigide, sévère, exigeant. L'influence maternelle agit en dehors et indépendamment de celle du père. Parfois même, elle met complètement de côté celle-ci, en sorte que la position du père devient des plus pénibles et que toute la famille présente un aspect de trouble et d'indiscipline. C'est une chose affreuse. Une note en bas de page. Rien n'est plus affligeant que d'entendre une mère dire à son enfant « Il ne faut pas que ton père sache telle ou telle chose ». Là où règnent ces pratiques de dissimulation et de duplicité, il doit y avoir quelque chose de radicalement mauvais, et il est moralement impossible d'obtenir quoi que ce soit qui ressemble à l'ordre selon la piété ou à l'exercice d'une vraie discipline. Il faut, ou bien que le père, par une sévérité désordonnée ou une excessive rigueur, irrite ses enfants, ou bien que la mère favorise la volonté propre de l'enfant aux dépens du caractère et de l'autorité du Père. Dans l'un et l'autre cas, il y a une entrave au témoignage qui fait beaucoup de mal aux enfants. Les parents chrétiens devraient donc veiller avec soin à paraître toujours devant leurs enfants et devant leurs domestiques dans la puissance de cette unité qui découle de leur parfaite union dans le Seigneur. Et si, par malheur, leur jugement n'est pas identique à l'égard de tel ou tel point du gouvernement domestique, qu'ils en fassent le sujet d'une conférence intime de prière et de propre jugement en la présence de Dieu, qu'ils cherchent la lumière, mais qu'ils ne rendent jamais ceux de leur maison témoins de leur divergence d'opinion, car cela manifesterait une faiblesse morale qui ferait mépriser leur gouvernement. Fin de la note. Des enfants ne peuvent jamais être bien élevés dans de telles circonstances, et la seule pensée en fait frémir relativement au témoignage pour Christ. Là où domine un tel état de choses, il devrait y avoir la contrition de cœur devant le Seigneur à ce sujet. Sa miséricorde est inépuisable, et ses tendres compassions ne font jamais défaut. Et nous pouvons certainement espérer que, s'il y a une vraie douleur et une sincère confession, Dieu interviendra en grâce pour guérir et pour relever. Nous ne devrions pas prendre notre parti de choses pareilles. C'est pourquoi que tous ceux qui en sont affligés dans leur cœur crient au Seigneur jour et nuit, crient à lui, en se fondant sur sa vérité et sur son nom, qui sont blasphémés par de tels péchés. Et certainement Dieu entendra et exaucera. Mais que cette question dans son entier soit envisagée à la lumière du témoignage pour le Fils de Dieu. C'est pour ce témoignage que nous sommes laissés ici-bas. En effet, nous n'y sommes assurément pas laissés seulement pour élever nos familles n'importe comment, mais bien afin de les élever pour Dieu, avec Dieu et devant lui. Pour atteindre ce but élevé, il nous faut être beaucoup en la présence du Seigneur. Un père chrétien ne peut pas frapper, souffleter, gourmander ses enfants comme le font les hommes du monde, selon leurs caprices et leur humeur du moment. Le chrétien doit représenter Dieu au milieu de sa famille. Cela, bien compris, réglera tout dans la maison. Il est l'intendant de Dieu. Il devra donc, pour bien comprendre cette charge et pour s'en acquitter fidèlement, avoir de fréquentes relations, ou plutôt des relations non interrompues, avec son maître. Il faut qu'il se tienne habituellement au pied de ce maître, afin de savoir ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Par ce moyen, tout, dans son administration, deviendra simple et facile. Souvent, le cœur voudrait avoir une règle générale pour chacun des divers détails de l'administration domestique. On demande, par exemple, quelle sorte de punition, quelle sorte de récompense et quelle sorte d'amusement les parents chrétiens doivent adopter. Quant aux punitions, je pense qu'elles seront rarement nécessaires si les divins principes d'éducation de l'enfant sont mis en pratique dès la plus tendre enfance. Quant aux récompenses, il me semble qu'elles devraient essentiellement consister en expressions d'amour et d'approbation. Un enfant doit être obéissant, obéissant à tous égards et incessamment, non pour obtenir une récompense propre à nourrir et à développer l'émulation qui est un fruit de la chair, mais parce que Dieu le veut ainsi. Cependant, il me semble convenable que les parents manifestent leur approbation par quelques présents. Quant aux amusements que vous désirez procurer à vos enfants, qu'ils aient toujours, si possible, le caractère de quelque occupation utile. Cela est salutaire à l'esprit. J'ai souvent vu de très jeunes enfants trouver un plaisir beaucoup plus réel et certainement beaucoup plus simple avec du papier, un crayon ou telle autre chose qu'ils se procuraient eux-mêmes qu'avec les jouets les plus chers. Enfin, pour toute chose, punition, récompense ou jeu, ayons l'œil sur Jésus et cherchons sérieusement à soumettre la chair sous quelque apparence ou forme qu'elle se présente, alors nos maisons seront un témoignage pour Dieu, et tous ceux qui y entreront seront contraints de dire « Dieu est ici ». Il faut que je termine, je n'ai pas pris la plume, Dieu le sait, pour blesser qui que ce soit. Je sens avec force l'importance du sujet que j'ai traité, et en même temps mon incapacité à le présenter avec la clarté nécessaire. Cependant, je m'attends à Dieu pour qu'il donne efficace à ces lignes, et quand il agit, le plus faible instrument peut répondre à son but. C'est à lui que je recommande maintenant ces pages qui, j'en ai la confiance, ont été commencées, poursuivies et terminées en sa sainte présence. Une pensée m'a extrêmement soutenu, c'est qu'au moment même où je sentais sur ma conscience la nécessité d'écrire cette brochure, un certain nombre de bien-aimés frères étaient réunis en assemblée d'humiliation, de confession et de prière au sujet du témoignage rendu au Fils de Dieu dans ces derniers jours. Je ne doute pas qu'un point fort important de la confession n'ait été relatif au gouvernement de la famille. Et si ces pages étaient utilisées par l'Esprit de Dieu pour produire, ne fût-ce que dans une seule conscience, un sentiment plus profond de cette chute, et dans un seul cœur un plus sincère désir de réparer cette brèche, selon les pensées de Dieu, je m'en réjouirai en éprouvant que je n'ai pas écrit en vain. Puisse le Dieu Tout-Puissant, selon les richesses de sa grâce, produire, par son Saint-Esprit, dans les cœurs de tous ses bien-aimés, un plus ardent désir de rendre, dans cette dernière heure, un témoignage pour Christ, plus complet et plus décidé, afin que, quand la voix de l'archange et la trompette de Dieu retentiront, il se trouve ici-bas un peuple préparé à aller avec joie à la rencontre de l'Époux.